Courant d'air
au-delà des frontières.
L'un de ces mystères, cette fascination pour ce sous-continent s'est transformée en mode et le pays voit chaque année des milliers de voyageurs le sillonner. Dans quelques instants, on retrouvera Dridri qui se fait une joie de nous raconter ses aventures. Ensuite, on écoutera Robert qui travaille à Rennes 2 en tant que lecteur d'allemand et qui aborde notre société d'un œil plutôt critique. Dridri, t'es parti en Inde à deux reprises. Durant ton deuxième voyage, t'as refait quasiment tous les lieux que t'as pu faire dans ton premier. Comment ça se fait ?
En fait, mon premier voyage, j'étais parti à la base pour aider un camp de Tibétains à devenir autonome en prothèse dentaire pour que les anciens puissent manger. Et il se trouve que 3 jours avant de partir, je me suis cassé les deux poignets, donc impossible de partir. Finalement, je me suis entêté, je me suis dit que j'avais quand même envie de partir, donc je suis parti avec mes attelles au poignet, et donc arrivé là-bas, il m'est arrivé que des merdes, je suis tombé sur un mec qui a vu que je parlais pas anglais, ou difficilement, et qui m'a fait faire 5 fois le tour de la ville, qui m'a embrouillé, je suis tombé sur un... Donc c'était au petit matin tout ça, à 6-7 heures du mat, donc bombé dans la brume, une ambiance glauque à souhait, un gamin au milieu de la rue en train de se faire bouffer par les corbeaux. Donc ça a été très très dur pour moi d'encaisser tout ça, j'ai failli rentrer et puis finalement je me suis dit allez maintenant que t'es là tu te fous un coup de pied au cul, t'y vas, et j'avais un pote qui m'attendait à Goa. Donc du coup, je suis parti le retrouver là-bas. Et puis mon voyage a commencé. Et finalement, du coup, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Pendant 2 mois, ça a été baf sur baf sur baf. Des remises en question constantes. Un grand cheminement intérieur. Donc je vais plutôt vous parler de mon deuxième voyage. Parce que là, j'ai tout refait. En rentrant en Europe, je me suis dit que... Il fallait remonter à cheval quand on m'a toujours répété ça quand j'étais gamin. J'y suis retourné, j'ai refait tous les lieux que j'avais fait au premier. Sauf que là, je l'ai vraiment vécu du coup et j'en ai vraiment profité.
Pourquoi tu parles de folie indienne ?
La folie indienne, ça peut être par exemple de... Quand t'es dans une gare et que tu te poses pour attendre ton train et que là, t'as 10 indiens qui arrivent autour de toi et qui te fixent. Et ton train arrive dans 1 heure, alors ces 10 indiens pendant 1 heure, ils vont te fixer droit dans les yeux. En Occident, on avait l'habitude de fuir les regards, et là-bas c'est tout l'inverse, on comprend pas pourquoi. Ou sinon, dans un train, 5 mendiants qui vont arriver, dont un habillé en femme, qui va jouer des claquettes, qui va te taper des mains devant toi, qui va te réclamer de l'argent, et tu sais pas quoi faire, tout simplement.
Lors de ton deuxième voyage, t'es arrivé à New Delhi et t'es allé où après ?
Ensuite, j'ai enchaîné sur Pushkar. Pushkar, c'est là où il y a le lac le plus sacré d'Inde, où serait apparu Brahma. Et Brahma qui est un des dieux de la Trimurti. Trimurti, 3 dieux, Shiva et Vishnu. Un petit havre de paix au milieu du désert, balade en chameau, rencontre avec des sadhus. La belle vie, des couchers de soleil à couper le souffle, un endroit magique.
Tu dirais que là-bas, t'as eu l'occasion d'avoir des vrais contacts avec les gens, c'est-à-dire que t'es pas trop, d'une certaine manière, sali par l'argent.
Donc ce qu'il faut savoir pour un occidental, c'est que en général, c'est assez compliqué de communiquer avec les Indiens, de par la différence de culture aussi, parce que moi, j'avais un anglais assez approximatif. Mais on reste un billet ambulant pour beaucoup et donc ils vont être très gentils, mais on se rend rapidement compte qu'en général, il y a un intérêt derrière. C'est vrai que c'est assez dommage, ils ne sont pas tous comme ça, je ne dis pas, mais ça reste assez fréquent quand même.
On parle souvent de la nourriture épicée indienne, mais vraiment, c'est très épicé.
Vraiment, c'est très épicé. Je me suis vu arriver dans une petite guest house et ne plus en pouvoir des épices ce jour-là et me dire, allez, je me prends une omelette. Première bouchée d'omelette, grosse goutte de sueur qui arrive sur le front et à cracher le feu et à ne pas pouvoir terminer cette oblette parce que même nos spicy là-bas, ça peut être hardcore, ouais.
T'as eu beaucoup d'inattendus, de surprises de ce genre ?
Bah, j'ai eu que ça, l'Inde, c'est que de l'inattendu et c'est que des surprises de ce genre. Par exemple, la première nuit où je suis arrivé à Gokarna, j'étais tout seul et truc tout bête, le soir, j'arrive dans une petite guest house qui payait pas de mine. Et je leur demande où étaient les toilettes, parce qu'après une journée de trajet, voilà, et un seau. Et ok, donc je fais quoi de ce seau, moi ? Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, mais après le vider, ne pas le vider, le jeter sur la fourmilière qui était en train d'essayer de me grimper sur le bras le long du mur. Impossible de savoir, donc bah je l'ai laissé là. Est-ce que j'aurais dû ? Je sais pas, mais il est resté là. Sinon, pour en revenir à la folie indienne, il y a quelque chose qui s'est passé à Pushkar qui était assez drôle, c'est que donc il y a la Holi là-bas, la fête des couleurs. Donc les Indiens se jettent de l'eau avec des pigments dessus et tout le monde est coloré pendant une journée. Sauf que bah manque de peau, ils ont tous utilisé des produits chimiques cette année-là. Produits chimiques qui sont allés dans l'étang, donc qui ont fait mourir tous les poissons du lac le plus sacré d'Inde. Donc, ils ont commencé par vider l'étang, ils se sont rendus compte que ça avait été dans la terre, donc ils ont commencé à creuser la terre de l'étang, sauf qu'ils ont enlevé toute la couche de glaise et qu'ils n'ont jamais pu le remplir. Donc, aux dernières nouvelles, ils y étaient au bulldozer. Je ne sais pas s'ils ont réussi depuis, mais voilà, typiquement indien. Une autre anecdote typiquement indienne, c'est que la première année, je suis arrivé à Gokarna, donc un petit village d'une forêt tropicale, cocotiers, plage de sable blanc, tout ça. Et un gros boulevard pour arriver à ce petit village, enfin une rue principale. Et donc j'avais cru comprendre cette année-là qu'ils voulaient réaménager les lieux, agrandir un petit peu. Et l'année d'après, j'arrive et de chaque côté de la route, il manquait une demi-maison, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont coupé les deux rangées de maisons de chaque côté de la route en deux, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait les gens d'un côté qui aient leur maison et l'autre pas. Alors, ils leur ont tous laissé une demi-maison, et ils ont coupé toutes les maisons dans le sens de la longueur, sur toute la longueur du boulevard.
C'est quelque chose que tu as fait, toi, de négocier ?
Ben, on fait que ça, il ne faut pas ne pas négocier en Inde, puisque tout est négociable, donc on aurait tort de se priver, ça fait partie du jeu.
Mais d'être français, et en tant que français, de toute façon, tu vas payer le prix bien plus élevé que ce qu'aurait été vendu aux Indiens.
Un occidental, de toute façon, ne payera jamais le prix indien, sauf si ça fait 10 ans qu'il vit là-bas, qu'il parle hindi et qu'il peut négocier en hindi. Mais autrement, c'est complètement impossible. Et puis ce serait anormal, on a beaucoup plus d'argent qu'eux, on est touristes, quelque part, je trouve ça normal de payer un petit peu plus cher parce qu'on peut se le permettre.
En ce moment, il y a beaucoup de choses. Les gens commencent à parler, les langues se délient par rapport aux violences qui sont faites aux femmes là-bas et au fait que le viol, il y en a énormément et que c'est même pas décrié quelque part. Alors, est-ce que toi, t'as senti qu'il y a eu un certain machisme ambiant quand il y a été ?
Bah, c'est plus que flagrant, tout simplement parce que toutes les femmes bossent et puis que les maris sont assis en tailleur toute la journée en train de les regarder bosser. J'ai eu l'occasion de rencontrer une miss là-bas qui avait vécu pendant plus de 10 ans en Inde et qui, pendant sa jeunesse, et qui me racontait qu'il y avait un ami à elle qui avait perdu une bonne partie de sa famille parce que le frère prostituait sa petite sœur a réussi à trouver un homme, ils étaient plus d'accord avec ça, donc le frère est allé voir les flics pour faire enfermer le mec de sa petite sœur pour ne plus avoir de problème avec lui. Sauf que sa mère n'a pas supporté, elle a fini par s'immoler dans sa maison, et voilà, et finalement toute la famille a été détruite à cause de ça. Le machisme là-bas, c'est... Les hommes font un peu ce qu'ils veulent des femmes et c'est normal, quitte à soudoyer la police pour imposer cette chose-là. Ouais.
L'âcre et ce dil ko humne samjhaya को ले आया
L'Inde, ce qu'on en voit, c'est des paillettes, des tambours, des danses et puis beaucoup de couleurs, mais finalement, c'est très dur, en fait, comme société.
Comme dit un pote à moi, l'Inde, c'est une gigantesque devanture. C'est magnifique, mais il ne faut pas passer derrière, parce que derrière, tout est pourri. Tout est pourri jusqu'à la moelle, que ce soit les flics, que ce soit l'administration, que ce soit les gens, pour beaucoup. C'est beau, mais c'est fascinant tout simplement parce que tout est différent déjà. Tous les voyageurs disent que l'Inde, c'est vraiment un des pays où on déconnecte le plus. Et c'est freestyle, on fait ce qu'on veut, il faut se méfier un petit peu, mais à partir du moment où on se méfie, tout est possible en Inde. On peut soudoyer les flics pour réquisitionner tout un immeuble pour faire une partie toute la nuit, on peut se balader sur les toits des bus, conduire des scooters sans permis. À partir du moment où on a un petit peu d'argent et un petit peu de jugeote, énormément de choses sont possibles en Inde. Mais je pense que ça, c'est de moins en moins vrai.
Parce que le système se met de plus en plus en place.
Exactement.
Quand tu nous racontes ce que tu as pu vivre en Inde, tu parles souvent de Varanasi.
Varanasi, c'est, on dit, peut-être la plus vieille ville au monde. Il y a une atmosphère là-bas qui est complètement fascinante. Pourquoi, je ne saurais pas. Moi qui fuis les villes en temps normal, c'est vrai que celle-ci, elle est fabuleuse. Des petites ruelles en labyrinthe qui partent dans tous les sens, avec toujours une merveille à découvrir au bout. Et puis Varanasi, c'est aussi la ville des morts. C'est là où... Si les gens viennent mourir à Varanasi et sont brûlés à Varanasi, ils peuvent sortir du cercle des réincarnations. Et donc, il y a constamment des bûchers le long du Gange. Moi, c'est là que j'ai appris à me guérir de la mort quelque part. On a tous peur de la mort en Occident, alors que bah là-bas, la mort, c'est pas une fin en soi, ça fait partie de la vie. Et c'est vrai que de voir constamment des brancards passés avec des morts dessus et puis constamment des bûchers, des gens qui brûlent et qui finissent leur vie dans le Gange comme ça. Ça met une atmosphère très profonde, très, très intrigante. Et paradoxalement, Varanasi, c'est aussi la ville de l'apprentissage. À partir du moment où on veut apprendre quelque chose, on pourra l'apprendre à Varanasi.
Au fond, l'Inde, ça t'a appris quoi ?
Je crois que ça m'a tout simplement appris à ouvrir les yeux et à voir les choses autrement, que toutes les conventions qu'on a en Occident ne tiennent que en Occident, que des milliards de personnes peuvent faire autrement et pour autant vivre avec. Et donc, ne pas se contenter de faire bêtement ce qu'on nous a inculqué, mais se demander pourquoi on le fait et est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que ça a un sens ?
Sur ces mots philosophes, on écoute Pleme Joyal Hoveja Ogole de Kakoli Sengupta, grande musicienne indienne versée dans la connaissance des chants sacrés d'Inde du Nord.
Yeah.
retrouve Robert qui vient de Jena, près de Leipzig, en Allemagne. Il est lecteur d'allemand ici, à Rennes 2. Alors Robert, est-ce que tu peux nous dire si ce que tu as vécu ici est plus ou moins conforme à l'idée que tu te faisais du pays avant de venir ?
C'est une très bonne question. Alors cette idée, elle a beaucoup changé en fait. J'ai fait des études de français pendant l'école, à partir de 14 ans. J'ai fait des études de français aussi pendant l'université. En Allemagne, il y a une idée de la France qui est la belle vie, tout est facile, les gens sont sympas. Il y a des publicités qui sont utilisées par des cigarettes gauloises. Il y a toujours le slogan « Liberté toujours » et tous les Allemands, ils pensent un peu ça que la France, et tout est facile et les gens sont gentils.
Si on en revient à ton travail de lecteur à l'université, ça se passe comment ?
Pour le premier temps, c'était...
Le formulaire rose.
Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J.
Pour le formulaire jaune, guichet 7, cinquième étage, escalier K, couloir W.
Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier...
Ouais, c'était pas tout facile... Il y avait beaucoup de bureaucratie pendant le travail, ce qu'on n'attend pas du tout. Il y en a, à mon avis, plus qu'en Allemagne. Et j'ai trouvé les gens beaucoup plus fermés et moins accessibles, plus dur accessibles que j'ai pensé en avance. Et ça m'a étonné, disons, ça m'a étonné un peu.
Vous avez apparemment donc en Allemagne ces clichés d'ouverture, de liberté, donc par rapport à la France. Mais finalement, selon toi, on subit aussi beaucoup de pression sociale. Comment ça ?
À l'âge de 7 ans, on n'a pas vraiment des cours. On commence à apprendre les choses plus tard qu'en France, par exemple à écrire ou à calculer. En Allemagne, ils ont beaucoup moins d'heures. Et je trouve que cette pression de briller, d'être bon pendant tous ces cours et toutes ces matières, il y a une pression d'être toujours le meilleur. Et avec tout ce travail, je trouve que les Français, ils oublient un peu ou ils échappent un peu à former leur propre personnalité ou ils rattrapent ça un peu plus tard que les Allemands. Ça sera plus vers à partir de les études, s'ils font des études qui leur laissent le temps de se former, s'ils ne vont pas en classe prépa. Mais je trouve que le développement personnel, c'est retardé, disons, pas en sens négatif, mais c'est quelques années plus tard que le développement personnel des jeunes Allemands qui font ça peut-être plus vers 15-16 ans, de se demander des questions, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent devenir, former leur caractère tout simplement. Ouais.
Tu trouves aussi que les Français soignent beaucoup leur apparence, toujours dans ce souci d'être le meilleur, le plus beau, le plus brillant ?
Effectivement, j'ai remarqué ça. Depuis mon premier arrivée. Et là, on dit toujours en Allemagne depuis longtemps que les Français, ils sont chics. On aime bien aussi ce mot, chic, chic. Mais que c'est à un tel point en France, j'ai pas attendu ça. Au début, je m'en moquais un peu, mais maintenant, je trouve ça bien aussi. Si on voit un peu des fois comment les Allemands ils négligent aussi peut-être un peu leur apparence, je trouve ça pas mal que, par exemple, au point de vue physique ou aussi, je ne sais pas, le déroulement du repas, c'est très réglé en France, ou le déroulement des soirées. Et en fait, il faut s'y habituer. Au début, j'avais beaucoup du mal avec ça, que tout est un peu prévu, à quelle heure on fait quoi. Mais après, maintenant, je me suis adapté aussi et je vois aussi les avantages et que ça peut être quelque chose de bien de passer ça et qu'il y a beaucoup de règles qu'on ne dit pas. Tout le monde sait les règles. Et après, on suit ce protocole et ça peut être intéressant aussi.
Mais alors, avec tout ça, comment est-ce que toi, tu te sens en France ? Parce que c'est un tableau un peu négatif que tu dépeins là.
Je me sens très bien en France. Après les 2, 3, 4 années d'adaptation, je sais que ce qu'il faut faire, et peut-être je suis devenu un peu français aussi. Par contre, pendant mon travail, je dois toujours garder le côté allemand. Il est très présent en moi parce que je le vends aux étudiants. En fait, je comprends les deux côtés et je peux rigoler aussi sur les deux côtés, sur les clichés. Et alors, c'est plutôt quelque chose qui m'a beaucoup enrichi. J'aime bien l'humeur des Français. Si une fois je l'ai compris, j'aime bien ça, les petites remarques. J'aime bien aussi la discrétion en France. Vous avez peut-être entendu que les Allemands, ils sont plus directs et... c'est vrai, alors en France, on dit les choses avec beaucoup moins de mots, il y a beaucoup plus d'allusions, et ça j'aime bien, c'est très fin, et bien sûr, j'aime bien la cuisine, alors ça me plaît, j'aime bien l'Atlantique, qui est pas loin.
Les Français sont vus comme des personnes arrogantes à l'étranger. Est-ce qu'on pense la même chose en Allemagne, et est-ce que tu trouves que ce cliché se confirme ?
On a la même image en Allemagne, tout à fait, que les Français sont un peu arrogants. On se moque un peu de ça. Par contre, on est beaucoup plus fasciné par les Français que de les critiquer. Et c'est vrai qu'ils sont très fiers de la France. Alors, j'entends ça toute la journée. Par contre, au même temps... non, c'est un peu exagéré. Mais au même temps... il aime bien aussi de critiquer la France, mais pas un point où il critique complètement la France. Alors, il y a toujours quelque chose dont ils sont très fiers. Par exemple, la nourriture, ou une phrase qu'on entend souvent aussi, c'est la diversité des paysages en France, qu'on trouve tous les paysages en France, ou... la culture française, la littérature, par exemple. Bien sûr, ce sont des choses dont il faut être fier aussi, mais il faut savoir aussi qu'il y a plein d'autres cultures qui existent dans le monde et qui ont aussi de la littérature et qui ont fait beaucoup d'influence sur le monde, en fait, qui avaient beaucoup d'influence sur le visage du monde global. Comme il existe maintenant, et c'est pas que la France. Souvent, pour les Français, bien qu'il existe une fascination pour les autres cultures, souvent, ils reviennent sur la France, ils arrêtent un peu là.
C'est vrai que la plupart des gens ont tendance à revenir à la France, donc en tant que culture unique. Mais est-ce que tu as quand même entendu parler de la diversité de la France concernant la diversité des identités des différentes régions qui se trouvaient en France ?
Oui, alors j'en ai entendu pendant les études, j'ai entendu ça aussi beaucoup avec les dialectes, on en parlait dans le cours de langue, avec l'occitan et le breton, le basque, mais j'ai pas attendu que c'est aussi présent, par exemple, surtout ici à Rennes, en Bretagne. Au début, je me suis beaucoup moqué de ça, que toutes les voitures, ils ont cet autocollant lesbraise et fier d'être breton et tout ce qui existe là. Mais je trouve ça aussi, oui, pourquoi pas. En Allemagne, c'est moins et il y a aussi de la fierté régionale, mais... C'est beaucoup moins qu'en Bretagne aussi. Et en fait, des fois, je n'ai pas vraiment compris dont ils sont tellement fiers, les Bretons. Parce que à part de l'océan Atlantique et du beurre salé, je vois pas vraiment... je ne voyais pas ce qu'il y avait ici. Mais maintenant, oui, je comprends un peu plus. Et ça fait partie aussi, c'est obligatoire d'être fier. Et après, quand je rentre en Allemagne, je vais être très fier d'avoir vécu en Bretagne. Peut-être, je ne sais plus pourquoi, mais...
Je pense que la différence qu'il y a avec l'Allemagne, c'est que la France est un État très centralisé, c'est-à-dire que le modèle, c'est Paris. Mais justement, je pense que les périphéries se sentent un peu lésées. Et sans doute aussi qu'on a voulu construire la France autour d'une idée, autour d'une seule langue, autour d'une seule identité, par la négation de tout ce qui pouvait exister autour. Donc je pense qu'en fait, justement, étant donné qu'on a cherché à les faire taire, mais justement, c'est maintenant qu'on trouve l'effet inverse dans d'autres régions, et notamment la Bretagne, que du coup les gens n'ont pas accepté qu'il y ait une partie de leur identité, de leur culture, d'eux-mêmes, qui soit mise sous silence, et donc du coup qui n'acceptent pas ça. Et je pense que c'est pour ça notamment qu'on trouve maintenant cet attachement-là. C'est la fin de cette émission. Merci donc aux invités et à DJ Vril pour la musique, et également à Claude pour son soutien à la réalisation de Courant d'air. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.radiocampusrennes.fr. On se quitte avec Music Monks du groupe allemand Seed.
Alors à bientôt, tchuss. Just a monkey
can. I see the monks right again, singing a song, a line again. Everybody go hype again. You better run or sing again. I see the monks right again, wiggle with tongue, a line again. Everybody go hype again. No better run or sing again. We have a divine good friend. Music we love and music we defend. Guns we no use, we sing and represent. Swing against the tide, we know we just depend on music from a start to the end. Whoa, oh, see that's no time for loser. This one goes out now to the music abuser. Music monks are taking over the cruiser. Cut off sick industry heads like Medusa. See the monks ride again, singing a song, a whine again. Everybody go hype again. You better run or sing again. I see the monks ride again, wiggle with tongue, whine again. Everybody go hype again. Yo, come and sing again. She go vex and hit me, fit me. And when me low, I me no one na na na. Cause only you can give me stamina. Push me, fit me. And when me stuck, I me just wanna run. Music, you're the one I'm in. Oh, no need to worry na na. See the monks ride again, wiggle with tongue, whine again. Everybody go hype again. You better run or sing again. See the monks ride again, wiggle with tongue, whine again. Everybody go hype again. Sing again.
This bass navigates, this star strums guitar. These drummers beat the summer that scratch wins. I match this mix when the chicks keys play to please. These horns blow stones from our dust to dawn. Sound of recorded days, sound of a night we face. That's what we wanna play. Sound monks dream, street days are monastery. We'll never be gone, we go on, we set it free. You know where we come from. See the monks ride again, wiggle with tongue, whine again. Everybody go hype again. You better run or sing again. Ride again, whine again, hype again. Mal wieder Stress ist, leg diese Scheibe auf und dann vergess es. Ladies dancing dirty, sogar Gangster shaking asses, weil's fett ist. Viele Freaks fragen nach der Genesis, der Freshness, die fresher als der ranzige Rass ist.